entre nous soit dit, l'heure et malheur du transhumanisme avec Olivier Rey. Il faut vous l'avouer, nous en avons maintenant, et depuis quelque temps, et peut-être même depuis le début, nous en avons maintenant notre claque de parler du transhumanisme. Pour ma part, cela fait plus de 25 ans que je travaille sur le sujet, et depuis que c'est devenu le grand sujet à la mode, j'en éprouve une certaine fatigue. Je préférerais parler d'une descente de croix de Roger van der Weyden ou de la culture des moules dans le bassin d'Arcachon. Si le transhumanisme nous intéresse encore, et s'il nous a jamais intéressés, c'est en tant que repoussoir, par le contraste qu'il produit et qui nous permet de revenir à des questions essentielles. Qu'est-ce que la modernité? Qu'est-ce que l'humain? Qu'est-ce que la vie? En quoi consiste le vrai pouvoir? Et comment connaît-on le vivant? C'est justement pour revenir à ces questions essentielles que nous avons invité aujourd'hui Olivier Rey. Olivier, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié au début du mois d'octobre 2018 ce petit livre chez Desclés de Brouwer, L'heure, comme un leurre, hein, et Malheur du transhumanisme. Nous allons partir donc du transhumanisme pour le quitter. Et la première question, la première demande que je voudrais vous faire, c'est dans notre rapport ou dans notre discussion face aux transhumanistes, on est toujours mis à mal par leur manière d'y répondre. Et pour le mettre en évidence, vous évoquez cette histoire du chaudron dont parle Freud. Et j'aimerais bien vous l'entendre, la rappeler, parce que j'ai trouvé ça très éclairant.
Oui, merci. Bon, je partage tout à fait le point de vue que vous exposiez pour commencer, c'est-à-dire que ce n'est franchement pas par goût que je me suis intéressé à la question transhumanisme. Je préférerais largement vivre dans un monde où ce type de préoccupation nous serait épargné. Mais à partir du moment où les transhumanistes prétendent en finir avec l'espèce humaine, en tant que représentant de cette espèce menacée, je me sens malgré tout requis par la question. Après tout, ça n'est pas parce qu'on est pacifiste qu'on peut se permettre d'ignorer les ennemis qui veulent notre peau. Et puis par ailleurs, il y a aussi quelque chose malgré tout d'intéressant dans cette question. C'est, m'est revenu en tête une expression de Bataille qui disait je marche à l'aide des pieds, je philosophe à l'aide des sceaux. Et en fait, de ce point de vue-là, les transhumanistes peuvent jouer ce rôle.
Le rôle de sceau utile.
Voilà, exactement, qui permettent de... D'une certaine manière, ils poussent à l'extrême certaines tendances et il y a une utilité dans cet extrême. Évidemment, ça conduit à des choses effrayantes, mais précisément, ces choses effrayantes permettent de reposer des questions que nous avions perdu l'habitude de poser. Et qu'il vaut la peine d'explorer. Alors c'est vrai, bon, le transhumanisme, pour le dire en un mot, il est né du fait que nous sommes arrivés à un stade du développement technologique où la technologie qui, au cours des deux derniers siècles, a essentiellement servi à modifier le monde autour de nous, est arrivé à un stade de sophistication où il devient envisageable, au moins pour un certain nombre de gens, de l'utiliser pour modifier notre constitution même, et cela dans une mesure telle que la condition humaine s'en trouverait tellement modifiée qu'elle ne serait précisément plus une condition humaine, que nous passerions à autre chose, nous deviendrions ainsi technologisés, nous deviendrions des post-humains. Et en fait, le trans de transhumanisme est là pour signifier le fait que l'espèce humaine n'aurait été que transitoire entre nos lointains ascendants animaux et puis les glorieux post-humains que nous serions appelés à devenir. Alors, l'argument du chaudron de Freud auquel vous faites allusion, oui, je l'ai trouvé tout à fait indiqué pour décrire la stratégie qu'ont les transhumanistes pour diffuser leur idéologie dans l'espace public. L'histoire du chaudron telle que la raconte Freud, je la résume en quelques mots. Quelqu'un a emprunté un chaudron qu'il a rendu ensuite à son propriétaire, et le propriétaire, récupérant son bien, se plaint du trou qu'il constate au fond de son chaudron. Et à ce moment-là, l'emprunteur se défend en disant premièrement que quand il a rendu le chaudron était en parfait état. Deuxièmement, que quand il l'a emprunté, il y avait déjà un trou à l'intérieur. Et troisièmement, que de toute façon, il n'a jamais emprunté de chaudron. Alors, il est évident que chacun de ces trois arguments séparément pourrait être éventuellement recevable, mais que l'accumulation des trois, en fait, est auto-destructrice. Et en fait, c'est exactement à ça qu'on assiste de la part des transhumanistes. Parce que, alors, premièrement, les transhumanistes vont essayer de nous séduire en nous faisant miroiter les merveilleux progrès que nous accomplirions grâce aux augmentations qu'ils préconisent. Nous aurions une augmentation de notre durée de vie absolument extraordinaire qui pourrait même d'ailleurs aller jusqu'à l'immortalité. Nous pourrions transférer le contenu de notre cerveau sur des ordinateurs, ainsi le dupliquer, le rendre insensible au passage du temps. Et puis nous rajouter des tas de fonctions qui rendraient notre vie beaucoup plus exaltante. Alors ça, c'est on pourrait dire la première couche. Et puis, quand on nous annonce de tels bouleversements, il y a quand même, on se dit que ces choses-là agissent sur nous de manière telle qu'il doit certainement y avoir aussi des contreparties et qu'il y a de quoi s'inquiéter. Et alors, quand on commence à s'inquiéter, arrive le deuxième argument des transhumanistes, qui est que finalement, avec le transhumanisme, rien ne change, puisque nous ne faisons avec lui que continuer un mouvement qui remonte aux origines de l'humanité.
L'homme se distingue de l'animal parce qu'il est perfectible, qu'il ne cesse de se dépasser, que nous avons toujours vécu d'innovation et que l'homme est depuis toujours transhumain finalement.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le simple fait, par exemple, de porter des vêtements, ce serait déjà une augmentation de notre corps. Le fait de porter des chaussures, c'est une augmentation de nos pieds. Le fait de porter des lunettes, c'est une augmentation de nos yeux. Le fait d'utiliser de la crème solaire, c'est une augmentation de notre peau qui permet de nous résister, qui permet de mieux résister au rayonnement ultraviolet, etc. Etc. Et donc, par exemple, si le fait que nous lisions également, ça nous a obligés à recycler un certain nombre de neurones de notre cerveau qui n'était pas prévu à cet effet pour la lecture. Et donc nous serions déjà de toute façon des transhumains, et donc le transhumanisme n'est que la poursuite d'un mouvement de telle sorte que si on voulait être conséquent dans notre opposition au transhumanisme, il faudrait refuser les vêtements, il faudrait aller tout nu, il faudrait ne plus porter de lunettes, etc. Et alors là, on voit quand même justement dans la confrontation entre le premier argument et le deuxième argument une très grande malhonnêteté, parce que d'une certaine manière, on sait qu'au cours de développement quantitatif, un développement purement quantitatif peut, à certains stades, entraîner des changements qualitatifs. Et c'est précisément là-dessus que comptent les transhumanistes pour le changement de conditions. Si on prend un des grands représentants du transhumanisme, qui est Ray Kurzweil, qui n'arrête pas de parler de la fameuse singularité, qu'est-ce que c'est que pour Ray Kurzweil la singularité ? C'est le moment où la puissance des ordinateurs, qui ne cesse d'augmenter depuis une cinquantaine d'années, surpassera la puissance de calcul des cerveaux humains. Et Ray Kurzweil qualifie ce moment de singularité parce que, d'après lui, à partir du moment où les machines auront une capacité de calcul supérieure à celle des cerveaux humains, cela nous fera basculer dans un monde tout à fait différent. Mais vous voyez que ce qui s'est passé, rien, tout ce qu'il si ce sera passé, c'est qu'on aura simplement continué à augmenter année après année la puissance des ordinateurs. Et Ray Kurzweil dit lui-même qu'à un moment donné, cela doit nous faire basculer.
Il reconnaît le quantitatif, continue. Voilà. Le qualitatif.
Il attend de cette augmentation quantitative un saut qualitatif. Et donc, dire ne vous inquiétez pas avec le transhumanisme, puisque de toute façon, nous ne faisons que poursuivre un mouvement qui remonte à la nuit des temps, en fait, ça n'est pas sérieux. Là, on rejoint d'ailleurs une préoccupation qui est pour moi centrale. C'est que la grande question, la question qui me semble essentielle, c'est toujours celle de la mesure, et que si on ne tient pas compte justement de ces aspects quantitatifs, de ces aspects de mesure, on ne peut pas mesurer véritablement les enjeux. Pour ce qui est de la technique, il est d'usage aujourd'hui d'organiser des débats stupides entre, d'un côté, des technophiles qui vont défendre la technologie sous tous ses aspects, et puis d'autre part, des technophobes, alors qu'il est clair que l'être humain, pour habiter la Terre, a besoin de technique. C'est un être qui s'épanouit et qui est fécond dans un rapport aussi technique, pas seulement technique, mais entre autres technique avec le monde. Mais la question n'est pas entre refus de la technique ou acceptation de n'importe quelle technique. Il est dans quelle mesure, justement, on développe la technique. Si on prend,
on peut même penser que d'une certaine façon, que ce soit chez les technoclastes et chez les technophiles ou les technolâtres, pour dire les choses, il y a quand même cette idée justement d'une extériorité entre la technique et l'humain. C'est-à-dire que finalement, d'un côté, on va dire, il pourrait y avoir un humain sans technique chez les technoclastes, et chez les technolâtres, il a dit, à partir du moment où la technique rencontre l'humain, elle le fait entrer dans le post-humain. Et c'est justement peut-être un des enjeux. C'est pas du tout simplement de critiquer. Il faut opérer une critique de la technique, mais ne pas tomber ni dans la technolatrie ni dans la technoclastie, mais de se rendre compte que la vraie technique est une technique humaine. Et que la véritable humanité déploie une technique. Donc la question, c'est effectivement la mesure de la technique humaine.
Tout à fait. Mais pour illustrer, pour donner une vision simple de ce que vous évoquez, j'aime bien comparer deux paysages, un paysage de bocage et un paysage de zone industrielle. En fait, quand on voit un paysage de bocage, c'est un paysage qui a été profondément transformé par l'action humaine. Et alors, on pourrait se dire, au nom de quoi vous vous opposeriez à la transformation industrielle du monde, parce que, vous voyez, le bocage est déjà un monde transformé. Mais on voit bien qu'entre un paysage de bocage et un paysage industriel, il y a un changement quand même radical qui s'opère. Et donc, on voit bien que on ne peut pas s'en tenir simplement au principe, il faudrait ne pas intervenir sur la nature ou bien alors toute intervention est bonne. Tout se joue dans le respect d'une certaine mesure. À l'intérieur de la technique, quelqu'un comme Ivan Illich avait l'habitude de distinguer ce qu'il appelait des techniques conviviales par opposition aux techniques dites non conviviales. Et pour Ivan Illich, une technique conviviale, c'était une technique qui certes augmentait énormément nos facultés de modifier le monde autour de nous, mais qui en même temps restait dans la continuité de nos facultés naturelles. C'était une manière de magnifier nos facultés, de les prolonger et de les magnifier. Alors que pour lui, la technique non conviviale, c'est le moment où l'outil échappe aux mains de celui qui le manie, pour devenir une machine qui va demander des hommes qu'il la serve.
Oui, d'ailleurs, dans la version française, puisqu'il avait revu vraiment la version française de la convivialité, l'outil convivial, qui d'ailleurs n'est pas une vertu simplement humaine, c'est une vertu intrinsèque à l'outil, c'est ça qui est intéressant, cette convivialité, c'est celui qui relie, alors que celui qui n'est pas convivial, c'est celui qui lie, enfin qui d'une certaine façon nous rend captifs. L'outil convivial, c'est celui qui permet un maniement, alors que l'outil qui n'est pas convivial, c'est celui qui nous fait entrer dans une logique de manipulation. Et il opère bien ces distinctions. Mais je voudrais revenir à l'histoire du chandreau, parce qu'on a vu les deux premiers arguments. Oui. Donc le premier, c'est le transhumanisme, regardez, c'est une merveilleuse rupture. Le second, qui est contradictoire, qui te dit, mais en fait, c'est en parfaite continuité, l'homme a toujours innové.
Et voilà, donc il faut s'émerveiller à la fois que ça nous fait entrer dans un monde radicalement nouveau et ne pas s'inquiéter parce que rien n'est nouveau.
Et alors, il y a le troisième argument, c'est que de toute façon, on n'y peut rien, c'est une inexorable fatalité.
Voilà, c'est ça. Et de toute façon, si on ne le fait pas, les Chinois le feront à notre place et nous serons dominés par ceux qui auront pris de l'avance dans cette course. Et donc là, on est confronté à quelque chose qui est de l'ordre de l'inéluctable. Ça correspond un peu à celui qui dit, dans la controverse avec le chaudron, disait de toute façon, je ne vois pas pourquoi je discute de cette histoire si ce chaudron a un trou ou pas, puisque de toute façon, je n'ai jamais.
J'ai jamais eu de chaudron, voilà. Alors, vous évoquez quelque chose, enfin un mouvement qui serait lié au développement même de la technologie. Et vous évoquez justement un empilement de justifications du transhumanisme, ce qui contradictoire, qui ne tient pas. Et pourtant, ça a du succès. Ça marche d'une certaine façon. En tout cas, c'est à la mode. Beaucoup y croient. Beaucoup le critiquent tout en restant d'une certaine façon dans les standards de l'innovation, du contrôle, etc. Puisqu'on dira, attention, il faut faire attention au transhumanisme. Donc, c'est un danger, il y a des risques. Mais on reste encore dans la logique de la gestion du risque. Et donc, il faut plus de contrôle, il faut plus de technologie pour nous faire échapper aux dangers de la technologie, etc. Bon. Mais quand même, si cela a une telle audience, c'est parce qu'il y a eu un vide qui s'est ouvert, un vide ouvert, on pourrait dire, par quelque chose comme la fin de la modernité. Et puis aussi, cela s'inscrit dans une dynamique qui n'a finalement rien à voir. Ça nous fait déjà sortir de la question du transhumanisme, et c'est ça que je voudrais évoquer avec vous. La première chose, c'est que on sort de la modernité parce qu'on est dans un effondrement des utopies, je dirais, politico-sociales. Il y a eu d'abord des utopies qui n'étaient pas technologisantes, qui n'étaient pas celles du transhumanisme, mais où l'homme allait réaliser une société parfaite par une transformation, notamment du système politique, du système juridique, etc. Et de la conception de l'individu. Voilà. C'était les grandes utopies des Lumières. Ça, c'est le premier point. Effondrement des utopies politico-sociales qui fait qu'il ne reste plus que cette utopie technologique. Deuxièmement, et je pense que c'est le point le plus fondamental et même ce qui fait la bascule entre la modernité et la postmodernité, nous ne croyons plus en un progrès indéfini de l'humain parce que nous vivons désormais dans un horizon d'extinction. Nous avons la conscience de la finitude de l'espèce humaine, de l'extinction des espèces, et donc il ne nous reste plus puisque nous sommes de toute façon condamnés, et bien pourquoi ne pas jouer le tout pour le tout en pariant sur l'intelligence artificielle? Et on voit beaucoup cela chez des transhumanistes. Et enfin, la troisième chose, c'est que si ça a un tel succès, c'est que le secret, on pourrait dire, de Polichinelle du transhumanisme, c'est l'extension du domaine de la marchandise. Donc, un accord complet avec l'ultime développement du capitalisme, au lieu d'avoir un bras qui est mon bras et que je restaure et je renouvelle en mangeant des nourritures et avec mes amis et en déconversant avec eux, eh bien on me propose une prothèse. Mais cette prothèse, il faut bien que je l'achète. Il faut bien, puisqu'elle va être soumise à l'obsolescence des produits, que je la rachète. Il faut que désormais je monnaie sa réparation, son entretien. Et donc, l'idée que le corps lui-même devient un gisement et se marchandise grâce, en fait, au projet transhumaniste. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut contre le transhumanisme, mais s'ils trouvent des prises, c'est pour ces trois choses qui sont des trois phénomènes réels. L'effondrement des utopies modernes, politico-sociales, le fait de l'extinction, pourquoi continuer avec l'humain si de toute façon nous allons disparaître. Et le troisième point, là, le phénomène capitaliste, qui est peut-être le phénomène plus essentiel, en tout cas la marchandisation généralisée du monde.
Tout à fait, mais je me rappelle que c'est Cecil Rhodes qui était un sorte d'aventurier britannique qui s'était installé en Afrique du Sud et qui avait réussi en se prenant la tête d'une compagnie minière à petit à petit acheter de plus en plus de terres jusqu'à finalement que ses possessions prennent la taille d'un pays qui a même été à un certain moment nommé d'après lui, qui s'appelait la Rhodésie.
La Rhodésie.
C'est quand même un des rares exemples de pays qui a été nommé d'après quelqu'un qui en fait ne l'avait même pas conquis, qui l'avait acheté. Mmh. Et enfin, même si ça a supposé quand même d'user de violence par rapport à ses occupants. Mais en fait, à la fin de sa vie, le pauvre, il se désolait en disant que désormais la terre était à peu près entièrement.
Voilà, j'ai la citation dans votre livre. Ils disent : le monde est presque entièrement partagé, et ce qu'il en reste est en passe d'être divisé, conquis et colonisé. Penser à ces étoiles qu'on voit la nuit au-dessus de nos têtes, à ces mondes immenses hors de notre atteinte. J'annexerais les planètes si je le pouvais, j'y pense souvent, cela me rend triste de les voir ainsi, si distinctement, et pourtant si loin.
Voilà, et donc en fait c'était le malheur du capitaliste qui soupire après de nouveaux marchés.
Qui ne peut pas acheter les étoiles.
Voilà, alors il y a Elon Musk maintenant qui rêve de coloniser Mars, mais enfin nous n'y sommes pas encore, mais... En fait, les capitalistes se sont avisés qu'il y avait un continent à portée de main, justement, et qui, lui, pouvait être conquis, qui était le corps auquel qu'on avait encore laissé tranquille jusqu'à maintenant, et qui était le corps humain. Voilà, la nouvelle frontière à conquérir par le marché, c'est le corps humain. Alors, pourquoi les êtres humains se laisseraient conquérir ainsi, se laisseraient faire ? Ben, il faut dire qu'ils sont déjà aujourd'hui dans une situation assez précaire, parce qu'aujourd'hui, nous vivons insérés à l'intérieur d'un système par rapport auquel nous avons perdu notre autonomie, puisque nous sommes, pour l'immense majorité d'entre nous, complètement dépendants de ce système pour notre survie même, puisque nous ne produisons plus les aliments qui nous nourrissent.
C'est la fameuse phrase de Houellebecq, enfin de Bruno, dans Les particules élémentaires, mes compétences techniques sont largement inférieures à celles d'un homme de Néandertal.
Tout à fait. Et il faut que les magasins soient approvisionnés pour que nous puissions manger, mais pour que les magasins soient approvisionnés, il faut qu'il y ait des camions qui livrent la marchandise, pour qu'il y ait des camions, il faut qu'il y ait de l'essence à mettre dedans, il faut des raffineries, il faut des puits de pétrole, il faut des armées pour sécuriser les voies maritimes, etc. Et on s'aperçoit qu'en gros, il faut toute l'industrie mondiale pour qu'il y ait quelque chose dans mon assiette. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement précaire, dans la mesure où notre relative opulence et suppose pour se poursuivre tout le fonctionnement général de cet immense système. Ce qui fait que la figure de l'homme contemporain qui se veut délié de toutes les anciennes contraintes, en réalité est extrêmement fictive, puisque certaines contraintes qui avaient été chassées par la porte reviennent par la fenêtre sous une autre forme, mais extrêmement sévère.
Et même l'ultime émancipation du transhumanisme, finalement, c'est de devenir un rouage parfaitement intégré dans le dispositif d'approvisionnement.
Voilà, exactement. C'est de se résorber même dans le système dont nous sommes déjà devenus dépendants. De ce point de vue-là, il y a quelque chose auquel on devrait davantage réfléchir, c'est au terme de cyborg, qui est apparu dans les années 1960 comme contraction de cybernetic organism. On voit apparaître pour la première fois cette idée d'un mixage entre le corps humain et la machine. Et ce qui est très intéressant, c'est de se rappeler le contexte dans lequel cette notion a été élaborée. En fait, dans les années 1960, bon, suite au succès remporté par les soviétiques dans la conquête de l'espace avec les premiers cosmonautes envoyés dans des satellites autour de la Terre, qui était
Gagarine,
le premier d'entre eux. Donc les Américains se sont sentis extrêmement vexés et ont voulu reprendre l'avantage dans la conquête de l'espace. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont lancés dans les programmes Apollo, qui ont abouti à la fin des années 1960 au premier astronaute qui a marché sur la Lune. Mais dès cette époque-là, quand les Américains se sont lancés dans cette conquête de l'espace, il y avait l'idée que la Lune n'était qu'une première étape et qu'il faudrait aller vite, parce qu'on savait que sur la Lune, on trouverait quand même pas grand-chose. Donc déjà, il y avait cette idée que la Lune n'était qu'un marchepied pour ensuite aller beaucoup plus loin. Ouais. Mais bon, évidemment, aller plus loin, ça suppose des vols habités, mais qui vont durer extrêmement longtemps. Or, le corps humain n'est absolument pas fait pour supporter de tels vols. Par exemple, le corps humain, il est fait pour vivre dans un champ de gravitation terrestre. Et quand les gens qu'on envoie dans l'espace sont en apesanteur, eh bien, au bout d'un moment, ça finit par avoir des effets
sur leur colonne vertébrale, sur leur système musculaire.
Très délétères. Alors en fait, à ce moment-là, on s'est dit qu'il faudrait essayer, par divers dispositifs, de recréer à l'intérieur des vaisseaux spatiaux des conditions qui ressemblent aux conditions terrestres. Bon, il s'avère que c'est extrêmement compliqué. D'où l'idée qui a germé dans certains cerveaux de se dire, mais plutôt que de s'escrimer à recréer dans l'espace un environnement qui ressemble à l'environnement terrestre, il vaudrait mieux modifier les êtres humains qu'on va envoyer dans l'espace, leur ajouter de nouvelles fonctions en les amalgamant avec des machines pour les rendre résistants les rendre viables à ces nouvelles conditions pour lesquelles ils ne sont pas faits. Et là, si on voit donc qu'est-ce que c'est que les cyborgs, c'est des êtres qu'on imagine pouvoir vivre dans des conditions particulièrement hostiles où normalement un être humain normalement constitué ne pourrait pas survivre. Et c'est là que ça jette une lumière quand même sur le transhumanisme qu'on nous annonce aujourd'hui, qui donne vraiment à réfléchir, parce que tel que ça nous est présenté, c'est pour nous ajouter de nouvelles fonctions qui nous permettraient de nous épanouir de manière tout à fait inédite. En réalité, si on se replace dans ce que voulaient dire au départ les cyborgs, en réalité, il s'agit de nous adapter à des modes de vie qui sont de plus en plus inhumains. Et donc, en fait, l'être humain aujourd'hui ressent un malaise grandissant du fait que par le système proliférant qui s'est étendu sur la Terre entière aujourd'hui, il se trouve projeté dans des conditions de vie qui ne correspondent pas à ses facultés naturelles. Et la solution qui nous est proposée, au lieu de réfléchir à ce que serait un monde véritablement humain, et bien plutôt que d'essayer de faire en sorte que nos conditions de vie soient véritablement humaines, et bien c'est de modifier l'humain pour le rendre adapté à des conditions de vie inhumaines. C'est exactement transposer des années 60 aux années 2010, 50 ans après, la même chose.
Alors, c'est ça qui vous fait dire que le transhumanisme est un écran de fumée. Cet engouement cache deux choses. La première, c'est l'immense crise écologique que nous sommes en train de vivre et l'effondrement imminent d'un système. Et donc, au fond, c'est mu par, je dirais, l'énergie du désespoir, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, le cyborg s'est trouvé une viabilité hors de la biosphère. Donc, au fond, c'est déjà avoir fait une croix sur la Terre. Hein, et donc, on voudrait... Mais en même temps, on fait une croix sur la Terre et on ne voudrait pas résoudre les vrais problèmes qui sont justement ces problèmes-là, c'est-à-dire garder la Terre habitable humainement. Ça, c'est le premier point. Donc, au fond, c'est un leurre. Et c'est là où vous employez ce terme de leurre. Mais il y a un second écran de fumée qui est de faire passer pour une augmentation ce qui, en vérité, est une diminution. D'abord, être inséré dans le système, mais aussi le fait que ça n'augmente pas vraiment mes pouvoirs. Et c'est d'ailleurs un thème très ancien, puisque dans le Phèdre de Platon, il y a ce fameux mythe de l'invention de l'écriture, où Teute dit, et c'est déjà un discours sur la question de l'augmentation, « J'ai inventé l'écriture, cela va permettre aux hommes d'augmenter leur mémoire et d'augmenter leur savoir », à quoi le roi Tammuz répond « Non, tu as inventé quelque chose qui va se passer à l'extérieur de l'homme ». L'archive n'a rien à voir avec la mémoire vive, et être capable de répéter un discours ou être face à une parole figée qui est celle de l'écrit n'a rien à voir avec le fait d'avoir porté dans sa propre parole un raisonnement et d'avoir découvert d'une certaine façon, selon son propre chemin ou en ayant accouché soi-même de la vérité, un vrai savoir. Donc, acquis un vrai savoir. Donc, si aujourd'hui, par exemple, on me propose la 5G qui me permet de télécharger en quelques instants une bibliothèque entière, il me faudra toujours le même temps pour lire un seul livre. Le temps de lecture d'un livre est incompressible. Je ne peux pas lire la recherche du temps perdu à la même vitesse que son téléchargement. Et si j'accélère une musique de Mozart, une sonate, ça ne la rend inaudible. Donc il y a toujours une juste vitesse pour chacune des choses. Donc ce qui se passe, c'est qu'on me dit « Regardez, c'est merveilleux, vous avez une ouverture au savoir. » Mais en fait, je suis submergé par un certain nombre d'informations. Je vais devoir demander à des algorithmes de gérer à ma place finalement cette tonne d'informations. Et entre-temps, j'ai désappris de lire. J'ai désappris de penser. J'ai désappris... Voilà. Alors, c'est deux écrans de fumée. Hein. Le premier, on veut nous voiler cette crise cette dégradation des conditions de vie dans la maison commune qu'est la Terre. Et puis de l'autre côté, on veut nous voiler le fait que nous sommes des êtres diminués et on prétend nous augmenter en réalité en créant une dépendance encore plus grande et en entérinant définitivement notre diminution, en nous privant de nos pouvoirs naturels, pour reprendre l'expression d'Ivan Illich.
Oui, tout à fait. Ce qui se développe aussi avec cette technologie surpuissante, c'est ce que Günther Anders a appelé la onde prométhéenne. La technique qui était là quand même pour... pour permettre à nos facultés de s'exprimer pleinement, justement, passer un certain seuil, au lieu de permettre à nos facultés de mieux s'exprimer, elles se mettent à humilier nos facultés. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, le fait qu'on puisse avoir dans une mémoire informatique des milliards de livres, on ne peut pas en lire davantage qu'un homme du Moyen-Âge.
Est-ce qu'on est humilié parce que la machine ne peut pas les lire? D'ailleurs, non, mais l'idée par exemple que la puissance, quand vous parliez de Ray Kurzweil qui parle de la puissance de calcul des cerveaux humains, mais la réalité c'est qu'une intelligence humaine n'est pas d'abord une puissance de calcul. Et est-ce qu'il n'y a pas déjà, pour que l'humiliation puisse fonctionner, l'idée que déjà on se réduit soi-même à un modèle, je dirais, informatique, qu'on voit déjà la vie selon un modèle cybernétique? C'est ça ma question, parce que
je suis entièrement d'accord. voulez, la comparaison que l'on fait entre les facultés humaines et la machine, en fait, elle est toujours biaisée, parce qu'en réalité, la machine, elle va être extrêmement performante dans certaine tâche. Et alors, si on compare l'être humain à la machine sur cette tâche précise, évidemment, dans un certain nombre de domaines, ça va tourner à l'avantage de la machine, que ça a commencé par les machines à calculer, qui calculent beaucoup, beaucoup mieux et beaucoup plus vite que nous, et puis ça continue aux échecs, aux jeux de Go, etc. Mais à chaque fois, en fait, on découpe dans l'infinité du monde une tâche extrêmement particulière et on fabrique une machine qui accomplit cette tâche. Et alors, en fait, l'être humain va être comparé à la machine sur cette tâche particulière, mais il suffit de déplacer un tout petit peu la tâche et la machine est mise en échec, alors que l'être humain...
Et c'est pas seulement... mais c'est en même temps le fait que effectivement on mesure des résultats. Par exemple, la machine a battu le joueur d'échecs. Mais au-delà des résultats, c'est pas simplement la spécialisation du résultat, c'est la question de la modalité. C'est-à-dire que une intelligence se déploie tout autrement qu'un algorithme.
Bien entendu.
Et même si on prend le jeu d'échecs, quand on dit Deep Blue, je ne sais pas comment s'appelle le logiciel quelconque, enfin, a battu tel grand joueur d'échecs. En fait, il ne l'a pas battu parce qu'ils n'ont pas joué ensemble. Il n'y a pas eu deux hommes. C'est plus un jeu. Et ça nous permet de recomprendre qu'un jeu d'échecs s'inscrit dans une situation humaine où un homme a choisi de jouer, entre dans une manière d'être en vis-à-vis avec un autre homme, autour d'un objet, d'une concentration particulière. Je me souviens de ce très beau texte de Joseph de Maistre où il dit « Les hommes ont inventé les jeux de cartes simplement pour se retrouver l'un en face de l'autre ». C'est pas bon, si on se mettait l'un en face de l'autre pour se contempler, ce serait assez gênant. Mais voilà qu'on a réussi à trouver quelque chose où c'est l'être avec qui est en jeu. Et c'est pas du tout une sorte de performance objective. Donc, de la même façon, l'intelligence n'est pas simplement une puissance de calcul en vue d'une performance objective, mais c'est une contemplation du monde où l'être avec le monde, avec son mystère, même dans une impuissance de calcul. La poésie avoue une impuissance de calcul, et pourtant, elle est une opération d'intelligence humaine extraordinaire et assez significative. Donc, c'est vraiment du côté de cette modalité aussi.
Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais quand j'évoquais après Günther Anders la question de la honte prométhéenne, je ne dis pas que cette honte, on ne peut pas, par de bons arguments, montrer qu'il n'y a pas à la ressentir. C'est pas pour autant qu'elle n'est pas ressentie.
Bien sûr.
Et quand on est en permanence confronté dans son existence à des machines qui accomplissent certaines tâches, en fait, ça peut développer en nous ce sentiment de honte, quand bien même, par un raisonnement, on pourrait se dire que nous ne devrions pas l'éprouver.
Alors, ça nous permet d'arriver au sujet qui importe, c'est-à-dire que au fond, le vrai problème, c'est que déjà, nous voyons la vie, nous voyons l'homme à partir d'un modèle cybernétique. Et qu'au fond, il y a une erreur dans notre manière de voir, déjà. Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui ont permis le transhumanisme, deux erreurs. La première, on pourrait dire, c'est très simplement le dualisme. Je suis un esprit et j'ai un corps. Mais l'essentiel, c'est que je suis un esprit. On a voulu tellement distinguer l'homme de l'animal qu'au bout d'un moment, on a vu son animalité, pas forcément comme un tombeau ou une contrariété, mais uniquement comme un soutien accessoire. Je peux dire, bien sûr, j'ai besoin d'un corps, en tant qu'esprit, mais pourquoi pas un autre type de corps.
Voilà, un simple support matériel.
Un simple le corps comme support matériel de l'esprit. Et donc, il y a quand même là déjà une première erreur, et une erreur qui est bien avant le spiritualisme, qui vient d'un dualisme, où on a voulu, au fond, glorifier la dignité humaine en l'arrachant au monde des vivants animaux, pour dire l'homme est un esprit, et c'est ça qui se retourne d'une certaine façon contre nous aujourd'hui.
Oui, oui, tout à fait. On peut dire que d'ailleurs, enfin, dans la pensée médiévale, il y avait une claire conscience du fait de la dualité qui est que porte en lui l'être humain. Il y a bien une dualité entre l'âme et le corps, mais en fait cette dualité est également union. Elle est indissociablement union.
C'est même d'ailleurs un dualisme.
Non, et voilà, exactement. Il faut bien faire la différence entre dualité et dualisme. Parce que d'un autre côté, il ne faut pas opposer au dualisme ce qui serait un monisme, qui d'ailleurs en fait est impossible à penser jusqu'au bout. On peut toujours dire qu'on peut nier les dualités, mais ça reste purement verbal, parce que cette dualité est quelque chose qui nous constitue profondément. En revanche, cette dualité, on peut la concevoir en tant que étant solidaire absolument de l'union de l'âme et du corps, alors que le dualisme va les concevoir comme détachables,
séparables. Et alors justement, c'est ça qui fait qu'on peut dire voilà,
seulement séparables, mais en plus tellement séparables que en fait le principe spirituel va pouvoir utiliser n'importe quel type de matière pour pouvoir en tant que support. Parce que, par exemple, dans la doctrine chrétienne, il y a cette idée qu'après la mort, il y a bien une séparation de l'âme et du corps, mais qui n'est que provisoire. Et le destin de l'âme est de retrouver un corps et un corps humain.
Oui, et son corps humain.
Voilà.
Et même Thomas d'Aquin va très loin en disant que l'âme séparée ne mérite pas le nom de personne.
Exactement.
Donc on est une personne humaine qu'en étant l'âme, qui est l'âme, une âme et un corps, mais parce que l'âme est l'acte du corps. Voilà.
Tout à fait.
Mais alors, il y a un autre aspect qui me semble aussi important, c'est la modalité de la connaissance. C'est une question épistémologique. D'ailleurs, vous citez Ivan Illich, si j'arrive à retrouver cette citation. Il y a une longue citation d'Ivan Illich sur la transformation du mode de connaissance. Je lis l'exergue de votre chapitre 3. « À considérer le développement des sciences naturelles et de la science générale au XVIIe et au XVIIIe siècle, il apparaît que la nature telle qu'elle est étudiée se trouve non seulement placé en dehors des mains de Dieu, mais perd ce qui était son caractère fondamental au sein de toute la période antique de notre tradition, la vie. C'est alors que se pose ce problème typiquement moderne, comment expliquer, comment évoquer la vie dans une nature et parmi des éléments naturels qui ne sont pas nés, mais sont, pour ainsi dire, mathématiquement programmés. » Alors, je dirais la chose de cette manière-là, que je tiens de Hans Jonas. Chez les anciens, on explique, ou plutôt on comprend, si on veut prendre la distinction entre comprendre et expliquer, on comprend l'inférieur par le supérieur. Et par exemple, c'est typique chez Aristote, la vie nous est donnée à voir d'abord par les animaux. Et pas d'abord par la plante. Et même pour savoir ce qu'est une plante, il faut d'abord avoir vu un animal. Ouais, et en réalité, même au fond de nous-mêmes. Et puis, donc, ultimement, c'est même en l'homme que se manifeste le plus ce qu'est la nature, dira Aristote. Donc, comprendre, c'est qu'on ne voit l'inférieur et même la matière ne se comprend qu'à partir du supérieur, puisqu'Aristote dira « la matière désire la forme comme le mâle, comme la femelle désire le mâle ». De l'autre, avec la modernité, ça s'inverse, c'est-à-dire qu'on explique le supérieur par l'inférieur. Et on se met à essayer de vouloir comprendre des manifestations supérieures, par exemple du vivant, à partir de phénomènes physico-chimiques. On est dans un processus de réduction, alors que chez les anciens, il y a un processus, je dirais, d'assomption ou d'explicitation, de manifestation. Voilà. Donc entre réduction et manifestation, voilà, c'est deux épistémologies concurrentes.
Oui, tout à fait. Mais quand on pense le mot nature, qui vient du latin natura, qui était lié à nascor, naître, la nature, c'était d'abord par son nom même, c'était d'abord le vivant, comme la physis des Grecs, c'était aussi d'abord le vivant. Et d'ailleurs, Aristote, au deuxième livre de la physique, il commence le deuxième livre de la physique par faire la liste des objets de la physique, et il dit « ce sont les animaux, les plantes et les éléments terre, air, eau et feu ». Et donc là, on voit bien que ce qui est en tête de liste, ce sont les animaux, puis les plantes, puis les éléments.
Parce que c'est là que la manifestation est la plus grande.
Voilà, exactement. Et donc là, on voit que la vie n'est pas quelque chose qu'il va falloir expliquer, puisque en fait, c'est le donné premier. Alors que si on prend la science moderne, alors pour prendre un repère simple, disons Galilée, quand Galilée écrit que le livre de la nature est écrit en caractères mathématiques, en fait, il a encore l'idée d'une physique générale comme chez Aristote, mais désormais, il va dire ce qui mérite véritablement le nom de science, ça va être lorsqu'on a réussi à dégager une structure mathématique. Alors pour Galilée, il y a encore cette idée qu'on va trouver des structures mathématiques partout, y compris dans le vivant. Bon, mais il se trouve que dans cette quête des structures mathématiques, dans l'inanimé, on va remporter quand même de grands succès. Ça va être l'astronomie, l'optique, puis l'électromagnétisme. On peut dire qu'on est loin d'avoir tout mathématisé dans l'inanimé, mais en fait, il y a eu quand même de très grands succès. On voit déjà qu'avec la chimie, ça commence à devenir un peu plus compliqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'au lieu d'avoir une physique à l'époque moderne, nous avons à côté de la physique qui réussit à être fidèle à l'idéal fixé par Galilée, on va avoir une science comme la chimie qui va apparaître mais qui ne réussit pas véritablement à être fidèle à cet idéal. Et puis surtout, va apparaître à partir de la fin du XVIIIe siècle une nouvelle science qu'on va appeler la biologie, pour s'occuper des êtres vivants, qui pose un énorme problème, parce que là, justement, la mathématisation marche extrêmement mal. Alors, qu'est-ce que va faire la biologie ?
Et qu'on est obligé de considérer, finalement, le vivant comme un mort.
Oui, alors en fait, en réalité, la biologie est prise dans une tenaille, parce que d'un côté, son idéal, l'idéal de la science moderne l'oblige à considérer le vivant comme du mort, le ramener à des structures mathématiques qui sont du même type que celles qu'on rencontre dans l'inanimé. Mais d'un autre côté, en fait, en tant que biologie, elle cerne son objet comme étant les êtres vivants. Et donc, en fait, d'un côté, elle veut s'occuper des êtres vivants, mais d'un autre côté, son idéal voudrait qu'on arrive finalement à les traiter comme s'ils n'étaient pas vivants. Et alors, le compromis qui a été trouvé justement par la biologie moderne, qui n'arrive pas à complètement réduire le vivant à de l'inanimé, ça va être le compromis qui va être trouvé, c'est de dire oui, bon, dans le vivant, il y a quelque chose qu'on ne rencontre pas ailleurs, qui est un instinct d'autoconservation. Et donc, en fait, le vivant, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'inanimé, mais avec une volonté d'autoconservation.
Oui, la seule finalité qu'on va conserver dans le vivant, c'est l'autoconservation. Mais est-ce que c'est une originalité ? Parce que, au fond, est-ce que réduire... Parce que la question est la suivante. Est-ce que l'oiseau chante pour se conserver ou est-ce qu'il se conserve pour chanter ?
Oui,
et
oui.
Pour rester un oiseau. Et au fond, quand on est dans la logique d'une manifestation... eh bien, on va dire qu'il se conserve pour chanter. C'est-à-dire qu'il y a une tendance de la vie à manifester des formes supérieures et à déployer, je dirais, une certaine gloire, on pourrait dire, de l'être. Mais dans l'autre sens, effectivement, on va dire, ben non, en fait, ça n'est qu'un... Toutes les formes qui apparaissent ne sont que des moyens d'adaptation et donc de survie et donc l'autoconservation. Mais est-ce que c'est vraiment... spécifier le vivant, ou est-ce que ça n'est pas qu'une extension de la physique moderne et notamment du principe d'inertie ?
Non, là, je ne pense pas, parce que toute la physique moderne peut se reformuler autour d'un principe qu'on appelle le principe de moindre action. Et justement, avec les êtres vivants, malgré tout, on est obligé d'introduire quelque chose qui n'est pas de cet ordre. Par exemple, ce qui est dans le darwinisme, la lutte pour la vie et pour la reproduction. Et en fait, le darwinisme, en fait, c'est quelque chose qui propose de comprendre l'immense diversité du vivant en tant que différentes stratégies qui se sont élaborées pour répondre à la même préoccupation qui est de persévérer dans l'être et de se reproduire.
Mais cette persévérance dans l'être, c'est pas la même chose que la persévérance dans le mouvement du solide qui est envoyé dans le vide.
Non, je pense que là, malgré tout, on a besoin d'un principe supplémentaire. Un physicien ne parlera jamais de lutte.
Voilà, c'est ça. Il y a une ambivalence.
Oui, là, il y a quand même quelque chose de téléologique qui s'introduit et que la biologie moderne ne peut pas se débarrasser.
Mais une téléologie minimale.
Ce qui nous fait reconnaître, distinguer dans la nature un être vivant de ce qui n'est pas vivant, c'est qu'on reconnaît en lui un projet. Justement. Donc, ce qu'on ne reconnaît pas dans le caillou qui tombe, on le voit comme est simplement mu par des forces qui s'exercent sur lui. Donc non, de ce point de vue-là, il y a quand même encore une spécificité qui est reconnue au vivant, mais qui est vraiment réduite simplement au souci d'autoconservation et de reproduction. Et en fait, chez Aristote reconnaissait bien chez les êtres vivants la volonté de se conserver, mais pour lui, en fait, c'était un instinct qui était subordonné au fait qui était d'être ce que cet être avait à être. Et alors, évidemment, pour être ce qu'il avait à être, il valait mieux qu'il se conserve, évidemment. Mais en fait, la conservation était au service de ce qu'il avait à être. D'ailleurs, j'ai lu que vous citez une phrase magnifique de Saint Thomas, où il dit aussi que l'âne ne désire pas devenir cheval pour courir plus vite. Parce que la première mission d'un âne sur Terre, c'est d'être un âne.
De s'assimiler à Dieu, mais selon sa propre nature.
Voilà, selon son asinité.
Voilà.
Voilà, d'être pleinement âne, d'être un bon âne. Et alors en fait, bon, il peut se trouver qu'à un moment donné, il est poursuivi par un prédateur et qu'il ne court pas assez vite pour lui échapper. Alors on pourrait se dire, ah ben voilà, s'il devenait cheval, il pourrait courir plus vite et échapper à son prédateur. Mais en fait, ce qu'il veut, certes, c'est se conserver, mais c'est se conserver en tant qu'âne. Et alors là, on voit que si on adopte simplement ce principe que nous sommes toujours simplement là pour persévérer dans l'être, on voit que le transhumanisme qui nous dit, écoutez, le monde autour de nous, ça va quand même assez mal, ça va pas être facile de tirer notre épingle du jeu, et qu'avec des implants qui vont nous transformer complètement, d'ailleurs, les transhumanistes, en fait, ont cette honnêteté de dire que ça va nous transformer de telle sorte que nous ne serons même plus des êtres humains. Voilà.
Mais que nous survivrons. Le transhumanisme est un survivalisme.
En fait, nous sommes comme des ânes qui ne répugneraient pas à devenir des chevaux si ça peut nous avantager dans la lutte pour la vie.
Dernière question. Malgré tout, au fond, dire qu'il n'y a pas d'autre finalité dans le vivant que l'autoconservation, c'est oublier qu'il y a un ordre, qu'il y a des formes dans la nature et qu'il conviendrait peut-être de les respecter, du moins de les contempler pour elles-mêmes, hein, des espèces. Et le mot espèce en latin dit à la fois la spécificité, donc c'est pas des stratégies pour se conserver une vie informe finalement, et ce serait l'invie informe qui serait première, mais voilà. Mais c'est plutôt la spécification qui est importante, mais espèce, c'est aussi species, c'est aussi la beauté, hein, en latin, donc aussi la manifestation, c'est pour ça que j'employais le mot gloire. Mais une fois qu'on dit, bon, au fond, il n'y a que de l'autoconservation, tout ce qui est autre finalité, c'est l'homme qui l'impose à la nature. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand on est dans la logique d'une compréhension de la nature comme manifestation, on est un contemplatif. Mais quand on est dans une logique d'explication de la nature par réduction, on peut opérer sur elle. Et on peut opérer à double titre. D'abord, la réduction nous permet de voir comment c'est fait, les briques, le mécano, et donc je vais pouvoir agir sur elles. Mais en plus, je vais pouvoir dire, de toute façon, il n'y a pas d'autre finalité que l'autoconservation, donc je vais pouvoir imposer à la nature n'importe laquelle de mes projets. Il n'y a pas de projet interne au vivant, mais c'est moi qui vais imposer à la nature mes finalités. Et c'est justement ça. Est-ce que quand même la force de séduction de la réduction explicative à des phénomènes physico-chimiques n'est pas liée à l'idée d'un pouvoir illimité sur la nature.
Certes, mais bien sûr, et c'est comme ça d'ailleurs que ce type d'idéologie peut prospérer. Mais d'un autre côté, il y a une némésie, c'est-à-dire qu'en fait, l'être humain ne se comprend lui-même qu'en se mirant dans ce qu'il n'est pas, la nature et la divinité. Et quand il vide complètement la nature de toute intériorité, évidemment, dans un premier temps, il y a des avantages immédiats qui est que cette nature vidée de toute intériorité, elle devient entièrement à notre disposition, elle n'est plus que matière première soumise à notre volonté. Mais d'un autre côté, en fait, en vidant la nature de son intériorité, l'homme ne se rend pas compte qu'il se vide lui-même de sa propre intériorité. Et donc, au fur et à mesure qu'il peut soumettre la nature à sa volonté perd également toute consistance. Et donc, au bout d'un moment, on aboutit, c'était le constat que faisait déjà Heidegger, où il disait, nous sommes à une époque où la puissance est la seule à être puissante. Mmh. Voilà. Et donc, au fur et à mesure que l'être humain développe ses moyens de puissance, en même temps, ce n'est plus lui qui est puissant, il devient, comme disait aussi Heidegger, fonctionnaire de la technique qu'il déploie. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, que l'être humain ne s'épanouit et n'est fécond que dans un rapport équilibré avec les êtres d'une autre essence que lui, les animaux, les plantes, même l'inanimé et la divinité.
De toute façon, s'il ne s'émerveille plus devant le monde, et si le monde n'est plus qu'un matériau selon ses projets, finalement, il n'y a même plus rien qui l'anime. Sa volonté s'effondre.
Voilà.
Et il n'est plus que dans ce que Heidegger appelait aussi la volonté de volonté. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus vraiment de volonté, c'est une volonté à vide, quoi.
Tout à fait.
Merci, Olivier Rey. Je rappelle le titre de votre livre, « L'heure et malheur du transhumanisme » chez Desclés de Brouwer. Et je rappelle aussi qu'à la technique, avec nous avons Thomas de Gallon. Merci et à bientôt.